Bonjour, je suis Philippe Denen, je suis médecin, professeur à l'école de santé publique de l'Université libre de Bruxelles, et j'ai le plaisir de vous présenter ce chapitre sur l'auto-prise en charge clé de la gestion des maladies chroniques avec l'aide du professeur Hélène Delisle. Alors, quel est le contenu de ce chapitre? On va y exposer les grands principes de l'éducation thérapeutique du diabète avec un accent particulier sur l'auto-prise en charge. Sera vu également le principe du counseling nutritionnel. Nous verrons également quelques modèles de changement de comportement qui seront présentés, leurs avantages et limites seront discutés. Et enfin, la composante activité physique de l'éducation thérapeutique sera exposée et des recommandations seront présentées. Quels sont les objectifs spécifiques de ce chapitre? Eh bien, à l'issue de ce chapitre, nous espérons donc que l'apprenant sera mieux à même de comprendre les principes de l'éducation thérapeutique, et particulièrement de l'auto-prise en charge des patients diabétiques avec ses différentes composantes, de comprendre les bases théoriques des changements de comportement et leur complexité, d'appliquer ces principes pour une meilleure gestion du diabète et de renforcer ses habiletés de communication pour conseiller plus efficacement le patient diabétique en matière d'alimentation. Ce chapitre est constitué de 4 modules. Module sur l'éducation thérapeutique, que j'aurai le plaisir de vous donner. Un module sur le counseling nutritionnel qui sera donné par le professeur Hélène Delisle. Un module sur les modèles de changement de comportement, que je vous donnerai également. Et enfin, un module sur les activités physiques, dont j'ai également la charge. Voyons maintenant donc ce module sur l'éducation thérapeutique. La définition qu'on pourrait donner de l'éducation thérapeutique. L'OMS, en fait, en 1998, en a donné une définition assez extensive. Donc, c'est un processus continu, intégré dans les soins et centré sur le patient. Il comprend des activités organisées de sensibilisation, d'information, d'apprentissage et d'accompagnement psychosocial concernant la maladie, le traitement prescrit, les soins, l'hospitalisation, et les autres institutions de soins concernées, ainsi que les comportements de santé et de maladie du patient. Il vise à aider le patient et ses proches à comprendre la maladie et le traitement, à coopérer avec les soignants, à vivre le plus sainement possible et à maintenir ou améliorer, si possible, sa qualité de vie. L'éducation thérapeutique devrait en fait rendre le patient capable d'acquérir et de maintenir les ressources nécessaires pour gérer de manière optimale sa vie avec la maladie. Voilà donc une définition assez large de ce qu'est l'éducation thérapeutique. Rôle positif de l'éducation thérapeutique a été reconnu depuis longtemps, notamment pour son amélioration de résultats cliniques dès 1918, ça a déjà été montré. Des cours d'éducation au diabète ont été offerts déjà aux patients du Royaume-Uni à partir de 1940. Alors, depuis 1972, des méthodes éducatives spécifiques au diabète ont été publiées. Et alors, l'éducation au diabète est maintenant reconnue en tant que spécialité par de nombreuses professions dans plusieurs pays, et notamment au travers de standards internationaux pour l'éducation au diabète parus en 2009. Enfin, l'éducation à la gestion autonome, qu'on appelle donc en anglais diabetes self-management, a montré beaucoup d'effets positifs sur l'évolution du diabète type 2. On y reviendra, et ici, donc, on cite 2 publications de 2015. Quelle est la justification de l'éducation thérapeutique? Eh bien, le diabète est une maladie chronique à gérer au quotidien pendant toute sa vie. En effet, il y a moyen, à travers la prévention secondaire, d'éviter ou en tout cas de minimiser des complications aiguës et chroniques. On peut également contrôler des complications chroniques existantes, prévention tertiaire. Et on a bien montré donc que l'éducation thérapeutique avait un impact positif sur la morbidité, la mortalité et la qualité de vie. Donc, ça justifie entièrement qu'on consacre beaucoup d'efforts donc à développer cette éducation thérapeutique. Quels sont les objectifs de l'éducation thérapeutique? Alors, tout d'abord, un premier objectif, c'est de mieux connaître la maladie et ses complications, de sensibiliser sur l'importance de l'activité physique régulière, d'adopter de bonnes mesures hygiéno-diététiques, de permettre une observance thérapeutique, de permettre une autosurveillance diabétique et de prévenir donc les principales complications. Les bénéfices attendus sont nombreux, donc une modification des savoirs et des comportements. Donc on espère effectivement que le patient va modifier ses savoirs, va les améliorer et va pouvoir ainsi modifier également ses comportements. On espère une amélioration de la santé et de la qualité de vie du patient. On espère également une diminution des coûts pour le patient, notamment au travers d'une diminution du risque de complications, et également une amélioration du rapport coût-efficacité des dépenses de santé. Donc des bénéfices attendus à la fois pour le patient et à la fois pour la société. Technologies sont utilisées pour l'éducation thérapeutique. Alors il y a plusieurs pédagogies qui ont été essayées, qui ont été testées. Il y a ce qu'on appellerait plutôt la pédagogie académique, qui permet seulement de délivrer des informations, mais on sait que finalement, dans ce genre de pédagogie, peu d'informations seront finalement retenues. On a la pédagogie qu'on appelle la pédagogie comportementale. Elle vise à apprendre au patient un savoir-faire en lui faisant faire, par exemple, en lui apprenant à faire convenablement des injections d'insuline, à lui apprendre à mesurer sa glycémie. Et alors, on a la pédagogie de type constructiviste. Elle vise réellement à mobiliser les connaissances et les affects des patients pour leur apprendre à résoudre des problèmes thérapeutiques personnels. Donc là, l'idée est beaucoup plus vaste par rapport à la pédagogie académique, par exemple. Alors, chaque pédagogie a des avantages et des inconvénients, et en général, elles seront utilisées seules ou en combinaison en s'adaptant à chaque patient. Ici, c'est un schéma qui permet de mettre en évidence les différentes dimensions du patient à prendre en compte dans l'éducation thérapeutique du diabète. Donc vous voyez que on a dans le tableau, il y a ce qu'on appelle les dimensions cognitives, dimensions émotionnelles, dimensions métacognitives, dimensions infracognitives. Alors, les dimensions cognitives sont en général les dimensions qui sont les mieux connues. Donc on entend par là l'apprentissage de compétences, l'élaboration de savoir et de compétences. Donc voilà, on parle de savoir, on parle de compétences, on parle d'apprentissage. Donc ça c'est une dimension évidemment parfaitement nécessaire. Mais il y a d'autres dimensions dont il faut aussi tenir compte. Alors il y a notamment ce qu'on appelle la dimension émotionnelle. La dimension émotionnelle est importante pour connaître les intentions, les désirs, les besoins du patient, donc au-delà de purement des apprentissages. Il y a également ce qu'on appelle donc la dimension infracognitive. Là, en fait, elle est constituée des raisonnements intimes, des réflexes de pensée appris dans des apprentissages précoces de l'enfance et qui donc vont avoir une influence sur l'éventuel frein au changement de comportement. Et enfin, on a ce qu'on appelle la dimension métacognitive. Là, en fait, on fait référence à la conception que le patient a de sa maladie, du traitement ou de la santé en général. Et donc, il est très important de tenir compte de ces différentes dimensions pour pouvoir réellement aider le patient à changer de comportement. Donc, le risque, si on ne tient pas compte d'une partie de ces dimensions, c'est justement qu'on ne se rende pas très bien compte du pourquoi un patient n'évolue pas. L'éducation à la gestion autonome centrée sur le patient. Donc là, vraiment, ce vocable approche centrée sur le patient est au cœur de ce module. Donc l'idée, ça va véritablement être de solliciter les connaissances du patient. Les patients ont également des connaissances et il est très important de les connaître, de les partager. L'idée alors sera de valoriser et de renforcer ce que le patient fait déjà correctement. Et souvent, les patients font déjà un grand nombre de choses correctement. De travailler alors si besoin les erreurs. Donc les patients aussi, parfois ignorent certaines choses ou font des choses un peu de manière erronée. Ben, on va travailler ces erreurs. Compléter, ajuster les savoirs utilisés. Proposer également des activités pour mettre en œuvre, expérimenter, tester. Donc on va vraiment être un partenaire du patient pour tester avec lui différentes stratégies et voir un peu quelle est la meilleure stratégie pour lui. Et donc, on va aider aussi le patient à transférer les acquis à la pratique quotidienne. Donc, il ne suffit pas d'avoir des connaissances, il faut encore pouvoir les pratiquer dans la vie de tous les jours. Donc, l'important, c'est vraiment que cette approche est centrée sur le patient. Il s'agira aussi alors d'explorer les perspectives du patient, de le comprendre dans sa globalité, comme on dit, bio-psychosocial. Donc, le patient peut avoir des problèmes physiologiques, mais il a également parfois des problèmes psychologiques, il a parfois également des problèmes sociaux, et il faudra tenir compte de tous ces facteurs pour mieux l'aider dans sa démarche. Donc, l'idée, ce sera vraiment de trouver un terrain d'entente et de compréhension entre soignants et apprenants. Donc, à travers une longue discussion, on va un petit peu voir ce qu'on va pouvoir faire et on va établir une sorte de contrat en disant, bon, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qui est possible de faire pour le moment. Donc, il faudra évidemment créer un environnement didactique propice à l'enseignement, un environnement qui permet aux patients de pouvoir apprendre dans des bonnes conditions différentes choses, mettre en valeur la relation et l'alliance thérapeutique. Donc ça, c'est vraiment très important. Tout ça est vraiment centré sur le patient. C'est le patient qui est au centre de tout ça. Alors, donc, la personne apprenante est réellement considérée comme instruite et dotée d'un sens critique. Elle peut solliciter des informations et participer à sa prise en charge. Rappelons-nous que le patient sera pendant la majeure partie du temps seul, sans les équipes pluridisciplinaires qui s'occupent de lui, et que donc il est très important qu'il ait les bonnes informations pour se prendre convenablement en charge. L'éducation thérapeutique devient un processus continu, intégré aux soins donc, et centré sur le patient. Alors, que doivent comprendre les patients? Les patients doivent comprendre quels sont leurs objectifs, quelles sont également leurs valeurs et leurs sentiments personnels, quels sont les traitements et les soins du diabète, donc avec avantages et difficultés. Donc, il faut clairement que le patient sache très bien, mais voilà, le traitement et les soins vont me donner ces avantages-là, mais il y a aussi des difficultés, et est-ce que je les accepte, jusqu'où j'accepte d'aller. Le patient devra comprendre les stratégies de changement de comportement et de résolution des problèmes, donc il y a toute une série de mécanismes qui permettent de modifier les comportements, ça c'est important que le patient le connaisse. Le patient doit également comprendre son rôle en tant que décideur, au final c'est quand même lui qui décide, et voir un peu comment assumer sa responsabilité au quotidien. Pourquoi la gestion autonome donc, est si importante? Parce que, comme on l'a dit, le diabète est essentiellement une question de responsabilité personnelle. Les prestataires de soins ne voient finalement les patients diabétiques que peu de temps dans l'année. Et or, une gestion 24 heures sur 24 est nécessaire. Et donc, il faut absolument que le patient, pendant tout ce temps où il est seul, ou en tout cas en famille, sache vraiment bien se prendre en charge, et il a été clairement démontré qu'une gestion autonome bien menée entraîne de bien meilleurs résultats à long terme. Tous ces auteurs dont nous vous donnons les références l'ont bien montré. Alors, le but ultime donc, de l'éducation à la gestion autonome est évidemment d'arriver à un changement de comportement favorable pour vis-à-vis de cette maladie. Alors Burke en 2014 a décrit un processus en 6 étapes. Alors, on commence sur ce schéma-là d'abord par une analyse. Donc, on fait au départ du processus une analyse de la situation. On va y revenir. Ensuite, on se fixe des objectifs de commun accord avec le patient. Ensuite, on planifie les activités. Ensuite, on implémente réellement ces activités. On les met en route. Et ensuite, il y a une phase d'évaluation où après un certain temps, on va évaluer ben voilà, où est-ce qu'on est arrivé. Et ensuite, après cette évaluation, ben, la roue peut continuer à tourner puisqu'on peut à ce moment-là refaire une analyse où est-ce qu'on en est donc après cette évaluation et puis se refixer d'autres objectifs, etc. Bon. Passons à l'analyse, donc au moment du diagnostic. Alors, c'est un moment où il est intéressant donc, de faire une analyse assez complète. Et c'est ici que aussi le processus multidisciplinaire sera intéressant pour envisager un peu les différents aspects liés à cette problématique du diabète. On va évidemment faire une évaluation des symptômes, des signes cliniques. On va également regarder les habitudes alimentaires du patient, l'usage éventuellement de tabac, d'alcool. On va également l'interroger sur son style de vie. On va regarder un petit peu quelles sont ses occupations, ses loisirs. Est-ce qu'il y a des barrières financières à l'autoprise en charge? Quelle est la santé mentale psychologique du patient? Quelles sont ses connaissances en santé, ses croyances en santé? quelle est un petit peu son approche personnelle dans la résolution du problème. Très important également, quelle est sa volonté ou éventuellement ses freins pour résoudre son problème. Ensuite, la question de fixer des objectifs. Et là, c'est vraiment à faire de commun accord, donc avec le patient. Il n'est pas question de l'obliger à arriver à certains objectifs. Non, ça doit être de commun accord. Donc là, il doit être bien encadré par l'équipe soignante. Le patient choisit alors un ou plusieurs objectifs. Alors, important, ces objectifs doivent être à la fois spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et programmés. On y reviendra, ce qu'on appelle SMART en anglais. Et alors, le conseil est de commencer par des objectifs réalisables à court terme, histoire un peu d'encourager le patient que l'échéance ne soit pas trop lointaine. Ensuite, il sera question de planifier, donc il faut vraiment développer une stratégie pour atteindre l'objectif, une route à suivre. Et alors, très important aussi, cette route à suivre doit inclure les ressources disponibles. Il faut évidemment que le patient ait à sa disposition les ressources qui lui permettront d'atteindre ses objectifs. Et également, alors, important, être relativement souple. Il ne faut pas que la planification soit trop rigide, puisque immanquablement, il y aura certains écarts, sans doute, par rapport à la planification, et il faut prévoir des remises sur rail s'il y a des écarts, donc être quand même relativement souple. Ensuite, l'implémentation. Donc là, il faudra évidemment collaborer avec d'autres professionnels et services, puisque l'implémentation, ce sera par exemple pratiquer les activités physiques, avoir un meilleur traitement diététique, donc il faudra faire appel à des diététiciens. Donc à ce moment-là, la collaboration avec les autres professionnels est également très importante. Et alors, il faudra également prévoir un support, parce que le problème, c'est que après l'analyse faite avec les professionnels de santé, une fois de retour à la maison, le découragement peut survenir et il faudra prévoir différents types de supports. Ensuite, il y aura l'évaluation. Alors, l'évaluation, elle peut porter sur différents indicateurs. Bon, ici, on a donné quelques exemples. Par exemple, la glycémie, où en est la glycémie, quelle est la quantité d'activité physique que le patient a fait, quels sont maintenant ses apports alimentaires. Donc, ces évaluations peuvent porter donc sur différents items. On a déjà parlé un petit peu donc des acteurs de l'éducation thérapeutique, mais on n'en a pas encore dit grand mot. On a dit qu'ils étaient multidisciplinaires. Donc, il est évidemment essentiel de comprendre que le travail doit absolument se faire en équipe et qu'il faut absolument une collaboration multidisciplinaire dans le cadre du diabète. Alors, il y aura évidemment le personnel médical, donc médecin, infirmier. Le patient est au centre, donc comme on l'a dit, de toute l'attention et au centre du processus. Mais alors, il y aura toute une série d'autres professionnels de santé, par exemple des nutritionnistes, des diététiciens, des pharmaciens, des podologues, des travailleurs sociaux, des psychologues et d'autres encore. Et donc, c'est toute cette équipe multidisciplinaire avec le patient au centre qui va organiser toute la prise en charge. Donc, ce travail d'équipe, donc très important. Dans ce travail d'équipe, il est évidemment essentiel de respecter l'expertise de tous les membres de l'équipe. Chaque membre de l'équipe arrive avec une expertise particulière. Il faut également une très bonne communication entre les membres de l'équipe, avec des discussions ouvertes concernant la gestion, la prise de décision, la résolution des problèmes, la fixation des priorités avec le patient. Donc, il faut vraiment éviter que chaque professionnel travaille un peu dans son coin avec le patient. C'est vraiment une relation de confiance et de communication qu'il doit y avoir entre tous les membres de l'équipe. Relation maintenant idéale entre prestataire de soins et patient. Alors, on en a déjà un peu parlé, mais c'est ce qu'on décrit parfois sous le terme d'alliance thérapeutique. Il s'agit vraiment d'un rapport égalitaire, d'adulte à adulte, entre le patient et les prestataires, pour fixer en commun des objectifs et les moyens de les atteindre. Sachant évidemment que dans cette alliance, le prestataire de soins doit être le garant de la validité scientifique des propositions, mais tout en étant capable aussi d'aider les patients à les négocier avec lui-même. C'est-à-dire que le patient va peut-être, dans un premier temps, se sentir incapable d'arriver à faire telle ou telle chose. Il faut que le prestataire l'accepte et accepte qu'on procède par étapes, qu'on ne va pas directement arriver à l'idéal de ce qu'il espère. Donc c'est vraiment une négociation, un rapport égalitaire d'adulte à adulte. Parmi les volets de l'éducation thérapeutique, il y a un outil qui est souvent utilisé, c'est ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Donc cet entretien motivationnel, C'est une méthode de communication, donc directive, centrée sur la personne, visant l'augmentation de la motivation intrinsèque par l'exploration et la résolution de l'ambivalence. Alors dit comme ça, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais disons que le but essentiel de cet entretien motivationnel est d'augmenter donc la motivation du patient pour qu'il veuille réellement changer de comportement. Donc c'est vraiment ça le but et on va un petit peu voir dans la suite comment on y arrive. Donc l'entretien motivationnel, c'est un style de conversation collaborative permettant donc de renforcer la motivation propre d'une personne et son engagement vers le changement. Effectivement, vous avez beau donner toutes sortes d'informations à un patient, de directives, etc. S'il n'est pas motivé, s'il ne désire pas profondément changer, il y a rien qui se passera. Donc l'objectif de l'entretien motivationnel, c'est d'aider le patient à identifier ses propres motivations au changement, l'aider un petit peu à comprendre pourquoi il veut changer, examiner, expliciter son ambivalence face à la décision de changer de comportement. Souvent, en fait, on est un petit peu ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois, on a envie de changer de comportement, mais également, on n'a pas tellement envie. Donc, il y a, comme on dit, une ambivalence qu'il faut essayer de comprendre dans un premier temps et puis de lever, puisque, in fine, le but de cet entretien motivationnel, c'est de favoriser le changement. L'entretien motivationnel doit valoriser la collaboration plutôt que la confrontation. Donc, il ne s'agit pas, pour le personnel de santé, d'imposer quelque chose, de culpabiliser le patient, lui disant que ce qu'il fait n'est pas bien, etc. Non, on collabore, c'est un échange. Donc l'idée, c'est d'avoir une autonomie réfléchie plutôt qu'une soumission à l'autorité. L'autorité est représentée ici par le personnel médical et paramédical. Dans l'entretien motivationnel, on décrit 5 grands principes. Donc, la première chose à faire est d'essayer de souligner la différence entre ce que la personne est actuellement et ce qu'elle souhaiterait être, pour essayer de voir un petit peu, de définir avec le patient, ben voilà où vous en êtes actuellement, vous souhaiteriez arriver où? Parce qu'évidemment, si le patient n'a pas le souhait d'arriver dans une situation meilleure, ben ça va être difficile qu'il change ses comportements. Ensuite, chercher à comprendre les sentiments et les points de vue du patient, sans jugement, vraiment important. D'explorer cette fameuse ambivalence dont on a parlé, c'est-à-dire cette coexistence chez le patient de désir et de motivation contradictoires en faveur d'un changement ou en défaveur de celui-ci. Ensuite, il faudra intégrer les résistances du patient qui doivent être entendues par le praticien, comme ce qu'on appelle un indicateur de tension de la relation thérapeute-patient. Donc voilà, le patient de temps en temps résistera, ne voudra pas faire ceci ou ça, il faut l'intégrer, il faut y aller petit à petit, essayer de comprendre les résistances. Donc l'idée, ce n'est pas une confrontation, c'est un dialogue. Il faudra enfin soutenir l'optimisme et la croyance du patient dans sa capacité à réaliser un changement pour améliorer sa situation. Il a en effet été bien montré que si le patient pense qu'il peut arriver à changer son comportement, eh bien il va réellement plus facilement y arriver que si à l'avance il se dit « non, je n'y arriverai jamais ». Il y a 2 grandes phases dans l'entretien motivationnel. Une phase, comme on l'appelle, de résolution de l'ambivalence. On va essayer de résoudre cette ambivalence et de construire cette motivation intrinsèque au changement. Donc, on va réellement essayer d'augmenter ou de construire la motivation au changement pour que le patient veuille changer. Et ensuite, une fois que le processus est engagé, on va essayer de renforcer l'engagement du patient, donc en consolidant le changement amorcé et en l'aidant à trouver chaque fois que possible ses propres solutions. Donc d'un côté, il faut aider au démarrage, et pour ça construire cette motivation, et ensuite il faut la renforcer tout au long du processus. Il y a différentes stratégies éducatives, on peut avoir des séances individuelles, des séances en groupe, la combinaison des deux, on peut intégrer aussi par exemple d'autres personnes comme les familles dans les discussions. À titre d'exemple, un programme d'éducation à l'auto-prise en charge centré sur la famille s'est révélé plus efficace qu'une stratégie standard, donc sans la famille en Chine. Mais évidemment, ça c'est contextuel à la Chine et chaque pays doit trouver un petit peu ce qui lui convient le mieux ou chaque patient. Alors, il a été clairement montré l'efficacité de l'éducation à la gestion autonome. Les patients qui n'ont pas reçu d'éducation à l'auto-prise en charge du diabète ont des connaissances moins complètes ont tendance à ne pas recevoir les services préventifs recommandés et sont plus à risque de développer des maladies chroniques que ceux qui en ont reçu. Voilà ici deux références. Donc c'est efficace. Quels sont les obstacles potentiels à la gestion autonome? Alors ça peut être, oui, un manque de connaissances et de compétences. Il faut quand même que le patient ait suffisamment de connaissances et de compétences. Ça peut être un soutien social insuffisant. Donc si les patients parfois très isolés, qui manquent de soutien social, peuvent rapidement se décourager. Ça peut être un manque de ressources, c'est-à-dire que le patient n'arrive pas à trouver des personnes expérimentées, n'arrive pas à trouver du matériel de contrôle, un accès à des laboratoires, n'a pas d'argent pour les médicaments, donc tout ça lié au manque de ressources. Ça peut être parfois l'attitude des professionnels de santé qui est inadéquate, ça dépend un peu dans où on se trouve, dans quel pays, dans quel contexte. Ça peut être aussi un problème de connaissance parfois des professionnels de santé qui peut être inadéquate. Alors, quelles sont les compétences requises pour l'éducation thérapeutique en nutrition? Alors, c'est des conséquences, évidemment, des connaissances, pardon, techniques en nutrition. Il faut évidemment être tout à fait au point sur les normes, les plans d'alimentation, les situations de consommation dans différentes situations et pathologies. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir une expertise, disons, en communication pour le changement de comportement. Puisque au-delà des connaissances, il faut pouvoir aider les patients donc à changer de comportement, comme on l'a vu. Il faut évidemment être dans un contexte de relation d'aide. Il faut évidemment pouvoir aider les gens et avoir aussi une pratique réflexive, c'est-à-dire pouvoir réfléchir à ce qu'on fait et éventuellement modifier certaines choses. De plus en plus, on a une accréditation dans différents pays d'éducateurs en diabétologie. Donc, on répète, c'est des gens qui ont évidemment des connaissances approfondies de la maladie, mais qui sont également habilités à communiquer, à conseiller, à éduquer aux USA. Donc, il y a le Certified Diabetes Educator Credential et la demande est de plus en plus grande dans différents pays donc d'accréditer des éducateurs en diabétologie. Voici ici une lecture recommandée, donc les fameux standards internationaux pour l'éducation au diabète. Et voici ici d'autres ressources en français. Je vous remercie.